France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
154 millions de vies sauvées, avant tout celles des nourrissons, c'est ce qu'ont permis les vaccins depuis 50 ans. Mais l'histoire commence bien avant. En 1796, Edward Jenner, médecin de campagne anglais, crée le premier vaccin efficace au monde, celui contre la variole, maladie qui sera grâce à cela déclarée éradiquée en 1980. Aujourd'hui, les vaccins aident à protéger contre plus de 20 maladies potentiellement mortelles et le nombre de morts d'enfants a diminué de plus de 50% au cours des 30 dernières années. Mais dans de nombreuses régions du monde, un enfant sur cinq n'est toujours pas vacciné. Et nous ne nous protégeons pas suffisamment contre certaines infections. Pourquoi ? Comment expliquer la défiance de certains Français ? Où en est la couverture vaccinale ? Quel vaccin existe aujourd'hui ? Avec quels bénéfices et quels risques ? Pourquoi y a-t-il obligation vaccinale ? Et où va la recherche dans ce domaine ? Pour répondre à toutes ces questions, Marie-Aliette Domergue. Marie-Aliette Domergue, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes pédiatre au centre hospitalier de Versailles, experte InfoVac. C'est la ligne directe d'information et de consultation sur les vaccins. Et je précise que vous avez des liens d'intérêt avec des laboratoires dans le cadre de votre activité d'experte InfoVac, des liens qui sont évidemment déclarés et consultables sur le site officiel transparence.gouv.fr. Alors, c'est demain que débute la semaine européenne de la vaccination, avec comme mise en avant cette année la nécessité d'atteindre une couverture vaccinale étendue et équitable au sein de chaque communauté. On parlera bien sûr de cette couverture vaccinale qui s'améliore dans notre pays, mais qui reste insuffisante pour certains vaccins. Mais d'abord, l'actualité, et notamment celle du vaccin contre le zona. Très récemment, il y a une étude qui a été publiée dans la très sérieuse revue Nature qui montre que les personnes protégées contre le zona grâce à la vaccination auraient un risque réduit d'environ 20% de développer une démence. À l'heure où on n'a pas de traitement curatif ou préventif contre, par exemple, la maladie d'Alzheimer, évidemment, cette information a suscité un grand espoir. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette étude et de cette publication ?
Alors, cette étude a été complétée par d'autres études depuis. C'est une étude, en fait, qui repose sur la vaccination contre le zona qui a été introduite en 2013 au Pays de Galles. On suppose qu'il y a un certain nombre de virus qui s'attaquent au cerveau, qui pourraient... jouer un rôle dans la survenue des démences, et notamment le virus de la varicelle et du zona. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ça et qui ont comparé les personnes qui avaient reçu le vaccin zona au Pays de Galles, donc en 2013, juste avant leurs 80 ans, versus ceux qui n'avaient pas reçu le vaccin contre le zona juste après leurs 80 ans. Et ils ont constaté, en comparant ces deux populations, que les personnes vaccinées contre le zona développaient 20% de moins de démence dans les 7 années qui ont suivi la vaccination. Donc ça suscite effectivement un espoir important. Ça nécessite d'être confirmé par d'autres études, parce que cette étude n'était pas faite pour ça. Et donc c'est pas suffisamment puissant en termes de méthodologie, donc il faudra le confirmer. Ça reste une hypothèse, donc restons prudents. C'est possiblement un effet collatéral positif de ce vaccin contre le zona. Comme on a pu le constater pour d'autres vaccins, ou parfois on a constaté des effets collatéraux positifs inattendus, le vaccin zona, son but quand même principal aujourd'hui, c'est de prévenir cette maladie qui est vraiment fréquente chez les personnes de plus de 65 ans et surtout qui est à l'origine de complications avec des douleurs qu'on appelle des douleurs post-zostériennes.
Ça peut durer très longtemps et
très persistante, très invalidante, voilà, et très difficile à traiter.
Du coup, aujourd'hui, ce vaccin en France, il est recommandé pour qui ?
Alors, il est recommandé pour toutes les personnes à partir de l'âge de 65 ans et sans limite d'âge. Mmh. Et pour les personnes adultes qui ont un système immunitaire qui fonctionne moins bien, donc pour les personnes immunodéprimées, dès l'âge de 18 ans.
Mais aujourd'hui, avec cette information qu'on a, on ne va pas se faire vacciner avant 65 ans pour limiter ce risque de démence. On attend là pour l'instant.
Non, d'autant qu'il faut vraiment confirmer cette hypothèse. Donc pour l'instant, on se vaccine qu'à partir de 65 ans. Finalement, avant de 65 ans, on a un système immunitaire relativement performant. On peut faire un zona, certes. Les complications sont quand même plus rares. D'accord. Et sauf si on a un système immunitaire diminué, qui fonctionne moins bien, là, il faut le faire. Sinon, on attend 65 ans.
Un autre vaccin qui fait l'actualité, et là, c'est une actualité assez inquiétante, hein, c'est celui contre la rougeole. Depuis le début de 2024, on constate une augmentation du nombre de cas de rougeole en France. Augmentation d'ailleurs observée sur le continent européen et dans le monde depuis 2023. Il faut rappeler que la rougeole, c'est une maladie qui peut être très grave.
Oui. Alors effectivement, c'est une maladie qui peut être très grave et qui est d'ailleurs à l'origine d'une mortalité très importante, surtout chez le jeune enfant et dans les pays en voie de développement. La vaccination a permis vraiment de sauver énormément de vies. Et cette maladie qui a une réputation de maladie bénigne peut quand même donner des complications sévères, à la fois pulmonaires, notamment chez l'adulte, mais également neurologiques, notamment chez le petit enfant, chez le jeune enfant. Il faut savoir que quand on contracte la rougeole, avant l'âge de 2 ans notamment, on a un risque plus important de faire une complication neurologique qui est certes très rare mais très grave, qui s'appelle la panencéphalite sclérosante subaiguë, et qui est une encéphalite qui va survenir 7 à 10 ans...
Une inflammation du cerveau.
Une inflammation du cerveau, oui, tout à fait, qui va survenir 7 à 10 ans après la maladie et qui est constamment mortelle, donc c'est absolument dramatique. Et voilà, donc on a un outil extrêmement efficace depuis très longtemps qu'est le vaccin.
Un chiffre, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, estime que 56 millions de morts dues à la rougeole ont été évitées entre 2000 et 2021 grâce à la vaccination. Donc effectivement, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut une couverture vaccinale élevée pour limiter la circulation d'un virus et pour protéger donc les personnes les plus vulnérables, parce que je voudrais qu'on insiste sur ce point. La vaccination, c'est aussi un geste de solidarité, on se protège, d'accord, mais on protège aussi ceux qui n'ont pas accès au vaccin, les enfants qui vivent dans des pays défavorisés ou les enfants qui, chez nous, n'ont pas droit à la vaccination parce que ça existe.
Oui, tout à fait, ça existe. Et donc, en effet, le virus de la rougeole est extrêmement contagieux. Donc, dans une population qui serait non vaccinée, une personne va en contaminer entre 15 et 18 autour d'elle. C'est le fameux R0, taux de reproduction dont on a beaucoup parlé avec le Covid. Il est plutôt faible pour le Covid et la grippe, entre 1,5 et 2,5. Il est supérieur à 15 pour la rougeole. Donc voilà, donc c'est très contagieux. Et donc, vous l'avez dit, du coup, il faut une couverture vaccinale élevée. Il faut que plus que 95% de la population soit vaccinée pour justement pouvoir protéger, entre autres, les enfants ou les adultes vulnérables qui sont immunodéprimés. C'est un vaccin vivant atténué, donc on ne peut pas le faire à une personne dont le système immunitaire ne fonctionne pas normalement. Et donc, si on vaccine tout le monde autour, ça fait barrière au virus. Et donc, on diminue la circulation du virus. Et c'est vrai qu'il y a d'autres situations, si je me permets de donner un autre exemple, il y a d'autres situations où la vaccination est un geste altruiste, où non seulement elle entraîne une protection individuelle, mais également collective. C'est par exemple quand on vaccine les petits bébés contre les infections à pneumocoque, qui est une bactérie qui donne notamment des méningites. On s'est rendu compte qu'en vaccinant ces nourrissons, ils protégeaient leurs grands-parents. C'est-à-dire qu'on voyait une diminution des infections à pneumocoque chez les personnes âgées qui sont l'autre extrême de la vie où on observe des infections à pneumocoque sévères. Et donc ça, c'est absolument super. Et ça se voit aussi pour d'autres vaccins, comme par exemple les vaccins contre le méningocoque. On parle beaucoup en ce moment d'une augmentation de ces infections à méningocoque, qui sont des infections foudroyantes, qui peuvent tuer en quelques heures, qui donnent des méningites, des purpura fulminans. Et on sait...
Purpura fulminans, ça, c'est les petites taches rouges qui apparaissent sur les jambes notamment et qui traduisent effectivement l'extrême gravité de cette infection.
C'est ça, avec ces petites taches rouges. Et donc, en vaccinant les adolescents, ce qui a été fait dans beaucoup de pays, on a vu qu'on diminuait la fréquence de ces cas d'infection extrêmement sévère à méningocoque dans les autres tranches d'âge alors qu'elles n'étaient pas vaccinées. Pourquoi ? Parce que c'est les adolescents qui constituent le principal réservoir de cette bactérie, qui la porte dans la gorge. Et en les vaccinant, on peut protéger aussi les autres populations non vaccinées. Donc, c'est vraiment extrêmement important, effectivement, cette notion d'immunité collective.
On va parler de toute façon de ce calendrier, de ce qui est recommandé à quelle tranche d'âge. Donc, vous l'avez dit, pour parvenir à limiter la circulation d'un virus, il faut qu'au moins 95% de la population soit vaccinée. Alors, les derniers chiffres montrent que pour les nourrissons, les couvertures sont globalement élevées, mais la rougeole, effectivement, on est toujours en dessous de 95%. On en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Carnet de santé consacré aujourd'hui à la vaccination, un geste qui a permis de diminuer le nombre de morts d'enfants de plus de 50% au cours des 30 dernières années. Vaccin obligatoire, recommandé, quels sont les bénéfices, les risques et pourquoi s'en méfier? On en parle avec Marie-Aliette Domergue, pédiatre et experte Infovac. Alors, avant de parler méfiance, défiance, on rappelle les vaccins qu'on administre aux tout petits aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a 11, c'est ça?
Alors, plus exactement, il y a 12 maladies.
Oui.
12 maladies, parce qu'on dit 11, parce que 11 obligatoires chez le nourrisson, et il y a le 12e qu'on oublie souvent, qui est les gastro-entérites aiguës à rotavirus, qui peuvent donner des déshydratations sévères. Et comme il se donne par voie orale, ce vaccin, parfois on l'oublie. Donc c'est 12 maladies. 12 maladies, et heureusement, grâce à la recherche et au progrès de la vaccination, on a réussi à faire des vaccins combinés. Donc un vaccin combiné, ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs vaccins dans la même seringue pour protéger contre plusieurs maladies, comme par exemple celui qui est très connu, rougeole, oreillon, rubéole. Trois maladies prévenues dans le même vaccin, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B. Donc c'est six maladies qu'on va prévenir dans un seul vaccin. Et on va faire plusieurs injections de ces vaccins-là, parce que pour protéger le nourrisson, bah comme il a un système immunitaire qui est encore pas complètement celui d'un adulte, il faut lui faire plusieurs doses pour entraîner son système immunitaire. Et donc au total, bah chez un enfant de moins de 2 ans, un nourrisson, il va falloir faire 15 fois un vaccin, 13 fois une injection et 2 fois par la bouche, mais pour protéger contre 12 maladies.
Si on fait l'historique, on est passé de 4 vaccins obligatoires à 8 obligatoires, puis aujourd'hui donc 11 et 12 maladies. Ces 11 vaccins ont été recommandés pour respecter la loi Kouchner, hein, relative aux droits des malades, avant de bénéficier de ce qu'on appelle aujourd'hui une obligation temporaire. Donc ils ne sont plus recommandés, c'est une obligation temporaire. Ça veut dire quoi ?
Alors, temporaire, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la tendance générale, suite à la loi Kouchner, etc., de participer également à ces décisions de santé, et d'être, d'aller vers une levée des obligations vaccinales, parce que les obligations vaccinales diphtérie, tétanos, polio, ça datait des années 40. Et en fait, on voulait juste recommander ces vaccins. Ils font partie du calendrier vaccinal. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Il n'y a pas raison d'en mettre des obligatoires et des recommandés. Et ils sont remboursés à partir du moment où ils sont dans le calendrier vaccinal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a constaté une défiance de plus importante vis-à-vis de la vaccination. Il y a eu cette fameuse concertation citoyenne en 2016. Et en constatant qu'il y avait un risque de diminution de la couverture vaccinale des petits nourrissons, et donc un vrai risque de santé publique avec la réapparition de certaines maladies, qu'on voit pour un certain nombre d'entre elles quasiment plus, il a été décidé de rendre obligatoires les vaccins qui étaient dans le calendrier vaccinal à ce moment-là. Donc en 2018, du coup, il y avait pas la rotavirus et le méningocoque B. Il y avait tous les vaccins qui ont été rendus obligatoires, ils étaient dans le calendrier en 2018. Et puis, ensuite est arrivé deux nouveaux vaccins, les vaccins contre le rotavirus et les vaccins contre le méningocoque de type B, donc qui donnent des méningites aussi. Il fallait changer la loi, donc ils n'ont pas été rendus obligatoires, ils ont été mis recommandés.
D'accord.
Et puis là, en janvier 2025, nos autorités de santé ont pris la décision de rendre obligatoires les vaccins contre les méningocoques également chez le nourrisson, devant une augmentation très importante de ces infections, et donc vraiment une crainte de la poursuite d'une augmentation du nombre de cas auxquels on assiste aujourd'hui.
Mais alors on a du mal à comprendre, si c'est une obligation, qu'elle soit temporaire ou pas, pourquoi la vaccination contre la rougeole est en dessous de ce 95%, si, à une époque, quand on n'était pas vacciné contre le vaccin obligatoire, on n'avait pas le droit de scolariser un enfant.
Alors, aujourd'hui encore, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de sanctions pénales qui ont été levées, c'est-à-dire qu'on n'a plus de risque d'aller en prison si on vaccine pas son enfant, donc il y a vraiment des sanctions, la loi a changé. Maintenant, effectivement, il est très difficile de contrôler cette obligation vaccinale, et le seul moyen finalement de la contrôler, c'est un peu l'entrée en collectivité. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les parents qui sont très réticents à la vaccination ont tendance à reculer l'entrée en collectivité de leur enfant. Mais un enfant, par exemple, qui va rentrer en crèche, doit mettre ses vaccins à jour dans les 3 mois suivant l'admission dans le lieu de collectivité. Regarde.
Vous avez bien expliqué le nombre d'injections, finalement pas très importantes, parce qu'on a combiné plusieurs vaccins dans chacune de ces injections, mais répétées donc pendant 2 ans. Il y a beaucoup de parents qui disent, mais voilà, mon bébé, il pèse 5 kilos, on va lui injecter, même si c'est dans une seule seringue, on va lui injecter 12 vaccins différents, c'est quand même beaucoup pour un petit bébé et pour son système immunitaire qui est fragile, c'est dangereux. Il y a beaucoup de parents qui pensent ça.
Alors moi, ce que je leur donne, je trouve que un des exemples très importants, c'est qu'en fait, on sait que notre système immunitaire, pour se développer, notamment le petit nourrisson, a besoin de stimulation antigénique. Et donc, quand il naît, vous savez qu'on n'a pas de bactéries dans l'intestin. Tout le monde connaît le microbiote intestinal. Il va se coloniser en l'espace de quelques semaines avec plus de 100 000 milliards de micro-organismes vivants. 100 000 milliards de micro-organismes vivants. Dans le lait maternel, vous savez qu'il y a plus de 700 bactéries différentes.
Oui, ça inquiète pas.
Alors, ça ne nous inquiète pas du tout. Et voire même, si on fait de la recherche et qu'on travaille par exemple sur des souris qu'on reste stérile avec un tube digestif stérile, elles tombent malades. C'est-à-dire qu'on a besoin, notre système immunitaire a besoin d'être stimulé. Alors, juste pour un petit rappel, je vous ai parlé de bactéries. Une bactérie, ça comporte en général un peu plus de 1000 antigènes. D'accord ? Quand on fait un vaccin avec les vaccins qu'on a purifiés à l'heure actuelle, la plupart contiennent entre 1 et 10 antigènes. Donc voilà, ça donne un petit peu une idée de la goutte d'eau dans l'océan que ça représente pour le système immunitaire d'un bébé.
Effectivement. Alors après ces vaccins infantiles, donc il y a des rappels, hein, parfois durant toute la vie, pas pour tous les vaccins, donc là aussi il faudrait comprendre. Alors, et pour ça, on va déjà expliquer qu'il y a différents types de vaccins préventifs. Mm-hmm. Vous avez tout à l'heure cité vaccins atténués, il y a aussi des vaccins inactivés, c'est quoi ?
Oui. Alors un vaccin atténué, c'est on injecte le virus, là par exemple pour parler de la rougeole, en entier, on l'atténue pour qu'il soit pas virulent et qu'il donne pas la maladie. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le stimuler le système immunitaire de manière assez forte. Donc en général, c'est une immunité qui est robuste, qui nécessite le plus souvent pas de rappel, dans la majorité des cas, des vaccins vivants. Et il va pouvoir donner éventuellement des effets secondaires comme la maladie à minima. D'accord. Donc par exemple, on peut y avoir des boutons sur la peau avec de la fièvre, comme on aurait avec la rougeole, mais à minima. D'accord. Si on vaccine contre le rotavirus, qui est contre les gastro, on peut avoir un peu de diarrhée. Par contre, le vaccin inactivé, lui, on va prendre, en général, soit le germe entier qu'on inactive, mais le plus souvent, c'est pas ça. Le plus souvent, c'est juste un antigène, une protéine de ce virus ou de cette bactérie.
Cas de la polio, par exemple.
Oui, qu'on va associer, en général, à un adjuvant, on pourra en reparler, pour stimuler le système immunitaire. Et ces vaccins inactivés, comme ils sont un peu moins stimulants pour notre système immunitaire, ils nécessitent plusieurs doses avant d'être bien protégé, puis ensuite des rappels au cours de la vie.
D'accord, donc ça c'est très clair. Donc on rappelle à cause de ça, effectivement, par exemple, que le vaccin DTP, diphtérie, tétanos, polio, doit être fait à 25 ans, 45 ans, 65 ans. On a simplifié comme ça, c'est clair en plus. Oui. Tous les 10 ans à partir de 65 ans. Il y a d'autres vaccins recommandés après 65 ans, on va y venir. Mais les effets secondaires, on a bien compris que certains vaccins donnaient la maladie à minima. En gros, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme effet secondaire ?
Alors, les effets secondaires les plus courants, et il y a les effets secondaires attendus les plus courants, d'accord ? Donc, on en a parlé, les effets secondaires, la maladie à minima. Et sinon, pour les vaccins inactivés qui contiennent des adjuvants, ce qu'on va avoir le plus souvent, c'est comme l'adjuvant est là pour appeler les systèmes immunitaires sur place, parce que sinon, on injecte tellement peu d'antigènes que le système immunitaire ne peut pas réagir. Donc, on met un adjuvant pour recruter les cellules de l'immunité, et ça fait de l'inflammation. Donc, ça fait de l'inflammation locale, donc ça va être la douleur, la rougeur, aussi d'injection. Et l'inflammation générale, ça peut être des courbatures, un peu mal à la tête, de la fièvre. C'est pas très fréquent, mais ça peut arriver. D'accord. Et ça dure pas plus de 48 heures. Ça, c'est les effets secondaires attendus.
Et puis, il y a des événements rarissimes, mais qui inquiètent beaucoup.
D'accord. Donc là, il peut y avoir ce qu'on appelle plutôt des effets, du coup, indésirables, qui ont été... Donc, c'est pour ça qu'on fait des études et qu'on surveille de manière extrêmement rapprochée en pharmacovigilance après la mise sur le marché un vaccin quand il est commercialisé, pour éventuellement détecter des effets secondaires rares qui pourraient survenir. Par exemple, on a pu voir avec le vaccin Covid qu'il pouvait y avoir des myocardites, donc une inflammation du cœur, qui survenait après la vaccination. On a pu voir, après la vaccination contre le rotavirus, qu'on observait un genre d'obstruction intestinale qui pouvait survenir, qui s'appelle l'invagination intestinale, qui pouvait survenir dans la semaine suivant la première dose de vaccin. Mais ce qui est très important de dire, c'est que pour autant, ces vaccins n'ont pas du tout été supprimés. Leur rapport bénéfice-risque reste extrêmement positif. Pourquoi ? Parce que généralement, ces effets indésirables très rares qu'on observe avec le vaccin, ils existent de manière extrêmement plus fréquente avec la maladie.
D'accord. Ça,
donc, pour le Covid, par exemple, on sait que le Covid, la maladie Covid, donne des myocardites qui sont beaucoup plus fréquentes qu'avec le vaccin et beaucoup plus sévères. Donc, finalement, le vaccin, lui, va permettre de prévenir toutes les myocardites liées au Covid.
C'est un argument très important. Vous avez évoqué ces adjuvants. Donc, le plus souvent, ils sont à base de sel d'aluminium. Accusés d'effets secondaires comme ce qu'on appelle la myofasciite à macrophage, une maladie qui donne des douleurs articulaires, des difficultés neurocognitives. Ça aussi, ça inquiète certaines personnes. On ne pourrait pas s'en passer de ces sels d'aluminium ?
Alors non, ce sont des adjuvants. Donc, comme on l'a expliqué, les adjuvants sont essentiels. Alors, il y a plein de recherches sur d'autres adjuvants. Il existe d'autres adjuvants, mais on n'a pas tellement envie de les remplacer parce que c'est avec eux qu'on a le plus de recul. Donc, ils sont inclus dans les vaccins depuis 1926. Il y a eu de nombreux rapports qui ont été émis. Il y a eu l'Académie de médecine, il y a eu le Haut Conseil de santé publique en 2013 qui a émis un rapport extrêmement complet sur le sujet. Et en fait, ces sels d'aluminium laissent une trace dans le muscle, une espèce de tatouage. On peut retrouver un petit peu d'aluminium dans les macrophages à côté des fibres musculaires, mais ça ne donne pas de maladie systémique. La myosophacite à macrophage n'est pas une entité qui est reconnue comme étant une maladie. Et il y a eu de nombreuses publications sur le sujet, et je crois qu'on peut vraiment être extrêmement rassuré. C'est l'adjuvant le plus sûr, puisque c'est celui pour lequel on a le plus de recul.
Je comprends bien pourquoi il est utile. C'est effectivement effectivement important parce que c'est un facteur qui peut faire renoncer à la vaccination. On va parler justement de l'adhésion à la vaccination. Globalement, il faut le dire, les nouvelles sont plutôt bonnes parce que l'adhésion est en hausse dans notre pays et particulièrement pour les nourrissons, mais il y a encore des disparités. On en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Chaque année, ce sont plus de 4 millions de vies qui sont sauvées dans le monde grâce à la vaccination. Et pourtant, certains doutent toujours de la sécurité, voire même de l'utilité des vaccins. On en parle donc dans Carnet de Santé avec Marie-Aliette Domer, qui est pédiatre et experte InfoVac. C'est une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Doria Zénine, avec à la technique François Saint-Jour et Timothée Hubert à la vidéo. Alors, il y a une défiance qui existe vis-à-vis des vaccins dans le monde, mais c'est particulièrement frappant dans notre pays, il faut bien le dire. Et par exemple, certains estiment que les maladies contre lesquelles on se vaccine, devenant aujourd'hui rares, grâce à la vaccination, on pourrait ne plus se vacciner.
Ah oui. Alors, si on arrête, elles vont revenir, ça c'est certain.
Ça c'est important.
Moi, j'aime bien dire quand même la citation de Stanley Plotkin, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un médecin américain qui a participé au développement de nombreux vaccins, et qui disait que, à l'exception de l'eau potable, aucune modalité d'intervention, y compris les antibiotiques, a permis de réduire autant la mortalité que la vaccination. Donc voilà, on l'a dit, le nombre de vies sauvées, etc. Okay. Et ce qu'on sait, c'est qu'on peut parfois éradiquer une maladie, la variole. Donc là, on peut arrêter de vacciner. Donc
la variole, vous savez, quelque part le virus dans un laboratoire ultra protégé au cas où.
C'est ça. Donc vous savez que la variole a tué beaucoup plus de personnes rien qu'au XXe siècle que les deux guerres mondiales, hein, beaucoup plus. Et on a éradiqué cette maladie. Alors là, dans ces cas-là, effectivement, on va surveiller extrêmement prudemment. Mais la plupart des autres maladies pour lesquelles on vaccine actuellement, si on arrête, on a des épidémies. La maladie revient.
Il y a aussi dans notre pays quelque chose qui est assez particulier, c'est une défiance vis-à-vis des institutions. Alors ça a été majoré par certains scandales, comme le sang contaminé ou encore le Mediator. Mais ça se focalise quand même beaucoup sur les vaccins.
Alors ça continue, il y a de la défiance. Il y a une étude qui a été faite, mais qui finalement commence à dater un peu, qui était en 2019, qui montrait que les Français étaient les plus méfiants par rapport à la vaccination, par rapport aux autres pays du monde. Hein, jusqu'à 40% des Français mettent en doute la sécurité vaccinale. Il y a quand même un changement, et je trouve que nos autorités de santé, qui étaient pour l'instant frileuses, dans la communication, dans les décisions, notamment suite aux polémiques qu'il y avait eu avec l'hépatite B, la sclérose en plaques. Donc, on sait qu'il n'y a pas de lien.
Ça manquait de transparence, bien sûr.
Voilà, ça manquait de transparence. Et maintenant, il y a un vrai positionnement. Alors, il y a eu cette concertation citoyenne en 2016. Il y a eu la vaccination à l'école, quand même. C'est un pas énorme.
Bien sûr.
Dans les collèges contre le papillomavirus. Là, il y a un positionnement.
Ça a mis du temps à prendre, mais qui commence à prendre.
Qui commence à prendre, tout à fait. Là, il y a un positionnement de nos autorités de santé vis-à-vis des infections à méningocoque qu'on observe actuellement, avec un élargissement de la cible, avec des campagnes de sensibilisation, avec le désir, effectivement, de proposer aussi ce vaccin à nos adolescents dès la rentrée, en même temps que le papillomavirus à l'école. Donc, voilà, tout ça, Bien sûr. Va quand même dans le bon sens. Et on voit que la confiance, quand même, des Français, en général, vis-à-vis de la vaccination, reste quand même bonne.
Curieusement, cette défiance a quand même été majorée pour certains avec le Covid. Et très curieusement, c'est la rapidité avec laquelle ce vaccin a été élaboré, qui pourtant nous a sauvés d'une pandémie mondiale, qui a été source d'inquiétude. Écoutez Frédéric, qui participait à l'émission Le Téléphone Sonne sur France Inter, émission à laquelle participait Anne-Claure Crémieux, infectiologue.
Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il faut que la confiance dans la vaccination persiste ou revienne si elle est partie, mais dans la mesure où on a des vaccins qui sont sûrs et efficaces, je veux dire, face à une maladie grave, voire mortelle, extrêmement contagieuse, qui touche tout le monde, qui est très contagieuse et contre laquelle il n'y a pas de traitement. Alors, moi, j'ai l'impression qu'à la fois, pour le Covid et pour le papillomavirus, ça n'a pas été tout à fait le cas. Je rappelle que les études pour le Covid, la technique ARN, si elle n'était pas inconnue, était tout à fait confidentielle et donc expérimentale chez les humains, que l'efficacité n'a jamais été prouvée réellement. Et je pourrais interroger Mme Crémieux sur cette étude qu'elle ne peut pas ne pas connaître, qui ne vient pas d'un site complotiste, mais du système de santé britannique qui est sorti l'été dernier, et dont personne ne parle, et qui semble bien montrer que la balance bénéfice-risque du vaccin n'est pas merveilleuse comme on nous le dit, mais qu'au contraire...
Je vous préviens, Frédéric, il y a un clone Crémieux qui est en train de faire non avec la tête, mais finissez.
Ouais, je vous en prie. Quelle que soit la tranche d'âge, entre avril 21 et juin 23, il semble que les gens vaccinés, toutes causes de décès confondues, meurent davantage que les non-vaccinés.
Alors en fait, on a beaucoup entendu circuler ces études qui auraient montré l'inefficacité, voire la dangerosité du vaccin. On ne va pas y revenir parce que les études vraiment prouvent à quel point ça nous a été bénéfique. Mais tout ça, ça traduit quand même l'inquiétude devant des nouveautés.
Oui, tout à fait. Et c'est normal d'être inquiète devant des nouveautés. Maintenant, on a vu le nombre de vies effectivement sauvées par ce vaccin dans le monde, avec une réduction de la mortalité qui a été démontrée aussi en France par Santé publique France entre 2020 et 2022. Plus de 125 000 morts évitées grâce à ce vaccin. Et quand on a autant de recul du coup sur ce vaccin que le nombre de doses distribuées dans le monde, on peut maintenant être complètement rassuré sur ce vaccin et cette nouvelle technologie. C'est vrai que c'est un vaccin qui est arrivé très vite, mais heureusement.
Bien sûr. Je voudrais qu'on évoque le vaccin contre le papillomavirus parce que c'est vraiment important. Il permet de protéger donc de ce virus et des cancers qui lui sont liés, que sont le col de l'utérus, l'anus, les amygdales, qui est aujourd'hui recommandé pour les garçons et les filles. Ça, c'est vraiment la nouveauté entre 11 et 14 ans. Et il faut dire que dans certains pays qui ont débuté il y a des années ces campagnes, comme par exemple l'Australie, le cancer du col est annoncé comme prochainement éradiqué, ce qui est quand même incroyable. Effectivement, en France, on l'a dit, la vaccination à l'école a eu du mal à prendre, mais quand même, ça s'améliore. Est-ce que c'est compliqué, finalement, de vacciner des ados? C'est eux qui sont compliqués? C'est les parents qui sont compliqués? C'est qui?
En fait, les ados, le problème, c'est qu'ils ont un sentiment d'invulnérabilité générale. Donc, rien que pour ça, ils sont un petit peu difficiles à vacciner. En plus, ils sont en général en bonne santé, donc on les voit peu. Ils consultent peu, donc ça c'est difficile aussi. Il peut y avoir les freins le frein parental, mais on sait que quand on parle aux ados, pour le coup, et qu'on leur explique la maladie, ils sont extrêmement partants pour se faire vacciner. Donc globalement, quand il y a des freins vis-à-vis, par exemple, de la sécurité du vaccin, ou voilà, c'est plutôt les parents, et il faut communiquer, quoi, enfin voilà. D'accord. Donc, et c'est vraiment un vaccin contre le cancer. Qui est extrêmement efficace. On a des données d'efficacité et de sécurité qui sont extrêmement rassurantes pour ce vaccin. Ça permet de prévenir les vaccins liés à ce virus, à la fois chez le garçon et chez la fille, que ce soit voilà les cancers du col de l'utérus, du vagin, de l'anus, de la gorge. Donc tous ces cancers là, et c'est un outil extraordinaire de prévention primaire. Donc
Les personnes âgées donc protégées contre la grippe, le zona, le calendrier vaccinal s'étoffe pour les personnes âgées.
Oui, tout à fait.
C'est important.
Alors, c'est un âge clé de la vie où avant, on faisait la grippe, bon. Ensuite, il y a eu le zona. On a ce nouveau vaccin contre le zona qui est encore plus efficace que le précédent qu'on fait. Et à partir de 65 ans, finalement, oui, il y a la grippe, il y a le Covid, il y a le zona. Mais maintenant, il y a le vaccin contre
DTP, bien sûr, diphtérie, tétanos, polio.
Rappel DTP tous les 10 ans, DTP coqueluche aussi, parce que la coqueluche, ça peut donner des cas graves chez la personne âgée. Et puis les infections à pneumocoque qui peuvent donner des infections pulmonaires sévères. Et bientôt aussi, on va avoir les vaccins contre le VRS, qui sont déjà...
respiratoire syncytial, donc c'est la... Comment ça s'appelle chez le tout petit,
la bronchiolite.
Voilà, la bronchiolite.
La bronchiolite du tout petit, qu'on connaît très bien, exactement, qui est très médiatisée, mais également qui donne des formes respiratoires graves, immortelles, chez la personne âgée. Et donc, on a maintenant des vaccins également contre ce virus-là, dont vont pouvoir bénéficier les personnes âgées. Pas encore remboursé, mais...
J'ai un défi pour vous. Il vous reste 45 secondes pour me parler des femmes enceintes qui sont de mieux en mieux protégées, elles et leur futur bébé.
Tout à fait. Et donc, le petit bébé, avant d'avoir reçu ses propres vaccins, il est à risque d'un certain nombre d'infections. Vacciner la mère, faire un rappel chez la mère, c'est lui transmettre ses anticorps. La maman lui transmet déjà tout un tas d'anticorps. Si on fait un rappel pendant la grossesse, on peut protéger le bébé pendant les premiers mois de vie grâce aux anticorps de la mère qui sont en quantité suffisante, notamment contre la coqueluche, le VRS, mais aussi la grippe et le Covid. Et c'est vraiment les quatre vaccins qui font partie du calendrier vaccinal d'une femme enceinte. Et c'est extrêmement important pour la protéger elle-même, grippe et Covid, mais aussi pour protéger son bébé, essentiellement VRS et coqueluche. Il faut absolument convaincre les femmes enceintes que c'est très utile pour leur bébé.
Défi relevé, bravo. Merci infiniment pour cette émission qui était passionnante.